Voilà, alors c'était une pièce sonore donc proposée par Raphaël à partir de sons enregistrés pendant une des itinérances qu'ils ont pu faire sur le plateau de Mille Vaches. Et cette arrivée sur le plateau de Mille Vaches, elle a été possible grâce à quelques contacts que vous aviez sur place, notamment un qui est Florian Tillon. Florian Tillon qui vit à Tarnac. Et qui donc vous a accueilli, vous a présenté quelques personnes et quelques habitants qui vont permettre de faire le lien avec d'autres et avec d'autres et avec d'autres et de fil en aiguille, ça a créé ces itinérances un peu sur le plateau. Est-ce que je me trompe en disant ça ?
Non, c'est ça. Je crois que c'était le premier contact, mais du coup pas cette année, il y a un an et demi maintenant, quand il y a eu le premier échange sur le plateau. Florence, c'était le premier contact du monde à Tarnac. Et après, les étudiants, on a appelé, on a regardé sur Internet.
Et alors, okay. Et de la même manière où vous êtes venu à sa rencontre, récemment, le mardi 30 janvier 2018, Florent Tillon, qui est réalisateur de documentaires, est venu, lui, à l'ENSA pour vous présenter son film Mesa Guerrillera, qui notamment parle de territoire et de ce territoire qu'est le plateau de Mille Vaches. Je vous propose qu'on écoute quelques moments qui ont eu lieu pendant cet échange avec Florent Tillon, et c'est dans le cadre de...
C'est en lien avec l'Arc Territoire et les séminaires art et politique menés par François Coadou, hein. Prof de philo de l'école.
On écoute Florent Tillon qui échange avec les élèves de l'Arc Territoire sur son film Mesa Guerrillera.
Par hasard, on est venu ici, sur le plateau pour une résidence, pour faire un film là-bas pendant 2 mois. Et c'est la seule résidence que j'ai fait. Et c'est du coup là qu'on a rencontré... En fait, il faut dire que Détroit, ça nous a quand même porté plein de questions. Plein de questions qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait vraiment pas avant. Sur l'autonomie, sur l'anarchie, sur l'auto-alimentaire, sur les normes, sur la normalisation, sur le fait qu'est-ce que c'est bien d'être dans un quartier où il n'y a pas de police, quoi, où la police ne vient plus. Toutes ces questions-là, ça nous a vraiment ouvert plein de trucs. On est tombé ensuite sur Comité Invisible, qui sortait en même temps. Nous, on revenait de Détroit, il y a eu l'affaire Tarnac, il y a eu la crise aussi financière. Il y a vraiment une espèce de carrefour d'événements en France assez délirant. Et du coup, on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait du côté du plateau avec Comité Invisible. Et puis, en fait, via cette résidence, on est allé à Tarnac pour rencontrer un peu. Et j'avais déjà envoyé Détroit, qu'ils avaient beaucoup aimé. Parce que, en fait, c'est ça, il y a un truc qui se rejoint, quoi, le fait de fuir pour. Et ça a très, très bien collé, en fait. Du coup, on est resté, en fait. C'est ça qu'on cherchait, en fait. C'était pas la Nièvre, rien à voir. L'équivalent de ce qu'il y avait à Détroit sous des formes différentes. C'était vraiment là que ça se passait. Donc on s'est installé immédiatement sur le plateau de Mille Vaches. Alors après Vegas, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais c'est deux longs métrages qui se correspondent, hein, en fait. Disons que Détroit et Vegas, c'est un peu des villes modèles américaines, quoi. C'est ça qui m'intéressait, quoi. C'est-à-dire Détroit, ça aura été vraiment la ville expérimentale pour la voiture. C'est-à-dire une fois qu'on crée des voitures en masse, comment ça transforme la ville ? Comment on programme aussi, comment on planifie la transformation de la ville pour que tout le monde ait besoin de voitures. Donc les voitures font qu'il y a des habitations lointaines. Et comment tu pousses ça pour que ça soit même plus possible de circuler autrement qu'en voiture. Donc tout ça pour un intérêt économique, évidemment. Du coup, Détroit, ça a vraiment été ça. Une fois que c'était un peu au point, au bout de quelques années, très clairement, ça s'est extendu. Le modèle s'est répandu à travers les États-Unis et en fait à travers l'Europe et à travers le monde. Et en Inde, maintenant, c'est comme Détroit. Un siècle après. Et Vegas, c'est un peu pareil. Vegas, je le vois vraiment pareil, quoi. Une ville expérimentale dans les années 50, aller dans un endroit désertique, et par contre, y aller à fond du spectaculaire, d'espèce de trip, je sais pas comment on pourrait dire, orgiaque, du dionysiaque. D'être dans une espèce de débauche, une espèce de ville parc d'attraction, une ville aussi comment dire, tertiaire, quoi, en fait. Il n'y a pas il y a plus d'industrie, une ville post-industrielle, où finalement l'économie est centrée autour des services, du tourisme, des loisirs et de la ville. Du coup, en fait, Vegas apparaît vraiment maintenant comme le modèle de la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire la ville tertiaire, quoi, la ville loisir. Quoi. Et effectivement, le modèle s'est répandu. Alors, soit il s'est répandu carrément en clone, genre Dubaï ou d'autres trucs de ce type-là, soit de manière plus métamorphose, quoi. C'est-à-dire, pour moi, Nantes, par exemple, Nantes, en France, c'est une des villes qui a le plus l'expression de Las Vegas. Parce que c'est vraiment ça qu'elle met en avant, quoi. Les parcs d'attractions. Je ne sais pas si vous connaissez le projet de Lille avec l'éléphant géant, tout. La culture, ça c'est à la française, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est exactement le même programme.
On y était il y a 3 semaines.
Oui, vous étiez il y a 3 semaines. Vous êtes allé là, sur Lille,
tout ça ? Ouais. Ouais. Justement, pas tout.
Et c'est pour ça que, du coup, dans le film, dans Mesa Guerrera, il y a tout un passage sur l'éléphant. Enfin, c'est une arrestation. Devant l'éléphant, ça c'est des anecdotes. Faire arrêter quelqu'un par des faux flics à un endroit où il y a plein de flics, c'était pas évident. Et à la fin de Vegas, par contre, on dit, il y a juste cette phrase. Alors Vegas, c'est quand même le plus autofiction parce qu'on filme carrément notre enfant, mais ça c'était quasiment un besoin de survie, quoi. C'est-à-dire, quand tu vis là-bas 2 jours, tu es vraiment content de partir, et quand tu vis là-bas 2 mois, t'es vraiment au fond de l'enfer, et vraiment tu t'en chies, quoi. Tu vois vraiment des trucs complètement délirants, absurdes, débiles, enfin l'humanité dans ce qu'elle a de pire, quoi. Et du coup, quand tu vois ton enfant qui s'élève et qui marche au milieu de tout ce désastre, c'est un truc de survie, quoi. On filmait, on l'intégrait dans le film, parce qu'on dit c'était au moins la petite lumière dont on avait au moins donc besoin pour tenir, quoi. Et à la fin, on se dit, bon ben voilà, on donne un conseil en fait aux habitants de Las Vegas, et on leur dit, vous devriez faire comme nous, c'est-à-dire prendre la tangente, partir. À la fin du film, on part vraiment de Las Vegas en voiture, quoi. Et on dit, il y a, d'après nous, politiquement, que ça à faire, avec une ville comme Las Vegas, quoi. Et on dit, c'est con, parce que les mecs qui restent et qu'on a bien aimé, qu'on a découvert et tout ça, ils restent. Donc ils vont continuer à lutter dans cette condition-là. Mais à mon avis, le mieux, c'est de partir, mais pour revenir, évidemment. Pour revenir foutre en l'air le système, tout ça. Donc il y a une phrase un peu naïve à la fin de Vegas où on dit on reviendra plus nombreux, on reviendra plus fort, un peu le concept de retraite offensive en fait, quoi. Le fait de s'extraire, mais pour s'organiser et pour défoncer en retour ce cauchemar, quoi. Et du coup, ben, Vegas, c'est le moment où on arrive sur le plateau, on en discute. Cette fin-là d'ailleurs, elle est liée aussi aux discussions qu'on a finalement avec les gens de Tarnac. Depuis Tarnac, on découvre tous les autres lieux, que ce soit la ZAD, Rennes, Tarn, que ce soit Aveyron, que ce soit toutes les Lille, le Rouen, tous les endroits, il y en a vraiment des centaines, tous liés de manière assez forte, quoi. Ça nous a assez impressionnés, Et à tel point, du coup, qu'on s'est dit, il y a eu une histoire quand même, parce que là je viens à Mesa Guerrera. Il y a eu une histoire qui était un bouquin, en fait, à l'époque, qui s'appelait Première mesure révolutionnaire, si des gens le connaissent, écrit par Éric Azan. Dans lequel ils font une hypothèse intéressante qui est de dire au fond il est possible de... C'est quoi la grande force ? La grande force du peuple. Oui, c'est ça. C'est, imaginons qu'il y a une destitution du pouvoir. On n'imagine pas comment, que ce soit en insurrection, un effondrement, plutôt insurrectionnel dans l'imaginaire quand même. Une prise populaire de l'Assemblée nationale, machin. Oui, c'est ça l'angle du bouquin. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une prise du pouvoir par le peuple. Ils font ce constat-là. On est encore dans une possibilité révolutionnaire, type 1789, Lénine ou Mao ou quoi. C'est-à-dire on y va en force et on défonce le pouvoir, on prend la place. En tout cas, on le défonce, quoi. Et eux, ils posent l'hypothèse, ils disent, on a cru remarquer depuis 2 siècles, qu'à chaque fois que ça se passe, qu'il y a une destitution et qu'il y a une prise du pouvoir, ça merde quasiment automatiquement, direct, après. Et on peut encore l'observer avec les révolutions arabes, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, avec Mao et compagnie. Et du coup, la prise de pouvoir ne nous intéresse pas, parce qu'elle mène, au désastre. Et du coup, la position du bouquin, c'est, en fait, il faudrait détruire le pouvoir, mais l'annihiler, raser l'Assemblée nationale, quoi. Empêcher les bureaucrates de revenir au bureau, donc fermer les bureaux. Il disait quoi ? Transformer dans la cour de l'Élysée, qui est un grand cirque pour les enfants. Transformer Bercy en crèche, enfin, tu vois, ou en fac. De vraiment d'empêcher de détruire les ordinateurs, détruire les archives, etc. Il y a vraiment cette idée. Et ensuite, ça, c'est la première partie du bouquin. Et la deuxième partie, c'est ouais, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est beaucoup moins bien ce qu'ils imaginent, et c'est beaucoup plus flou, et c'est beaucoup plus bordélique. Et en fait, on voit bien qu'ils savent pas trop, mais voilà. Donc, il y avait ce bouquin. Ça, c'est au moment où on arrive, et ils disent on va faire une tournée, on va aller dans tous les lieux camarades, mais on va aussi aller dans les lieux de librairie, on va aller dans les lieux hybrides, on va aller dans les lieux plus ouverts, on va, avec ce bouquin, on va faire une tournée, et on va essayer de, voilà, de faire la politique. Du coup, c'est là qu'on se dit ben, nous, on découvre ça, on vient de Détroit, machin, il y a un truc assez logique de se mettre sur cette route-là. Pour faire un film, un road movie en fait, qui suivrait les étapes, les bouleversements éventuels de ce bouquin. Quoi. Voilà. Alors, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça au final, mais disons que ça a été l'impulsion de base. Quoi. Ce bouquin, plus l'arrivée à Tarnac, plus le fait qu'on avait ce thème-là en jeu, c'est parti.
Et nous sommes toujours en compagnie d'Alice, Madeleine et Raphaël, élèves de l'ENSA, et nous allons tout de suite passer aux questions des habitants du plateau de Millevaches. Donc, questions que se posaient des habitants que j'ai croisés, des habitants du plateau de Millevaches qui se posent des questions sur ce que c'est qu'être un élève en école d'art. Et c'est parti, on commence avec Laurie. Quel est le rapport qu'entretiennent vos proches, votre famille, avec votre choix d'études? À vous de répondre. Qui commence?
Bah, allez, je commence. c'est pas évident, parce que c'est un choix d'études qui fait que, du coup, pour notre avenir, on est dans l'incertitude, en fait. Et ça, ils le comprennent pas forcément, parce qu'on nous dit « Oh, il y a tellement de jeunes qui sont au chômage, comment tu peux choisir de faire des études comme ça ?» Et puis après, même quand... Donc, il y a cette incompréhension-là. Et puis, quand nous, on parle de ce qu'on fait, c'est très abstrait pour eux. Et on peut être soit dans un dialogue où on est dans la curiosité, soit où ils ne comprennent vraiment pas ce que c'est que l'art contemporain, ce que c'est que faire de la performance, si on ne fait pas de la peinture ou de la porcelaine. Et là, il y a un dialogue qui est parfois un dialogue de sourds. Et ce n'est pas évident quand c'est les membres de ta famille et qu'en fait, tu as envie de partager ça. Et je sais qu'avec ma mère, moi, c'est plus compliqué. Avec mon père, ça va. Mais c'est pas...
Est-ce que ça peut pas être lié à une méconnaissance du milieu de l'art, en fait? C'est ça qu'on s'imagine tout un tas de choses qui sont peut-être...
Ouais.
Ouais,
ouais, la réalité.
Ouais, ouais, bah c'est un peu... Il y a beaucoup d'a priori sur l'art et tout ça. Enfin, il y a des choses qui sont très médiatisées, d'autres moins. Et c'est vrai que dans le cadre, ben justement, Arc Territoire, ils n'arrivent pas trop à faire le lien entre le domaine de l'art et ce qu'on fait. Parce que oui, c'est souvent l'art matérialisé par l'art sculpture, des choses comme ça. Et voilà. Mais en fait, ils cherchent... Enfin, ça dépend des gens, mais moi, ça va, dans ma famille, ils disent OK, quoi. Mais ça peut être souvent catégorisé... que tu peux faire n'importe quoi.
Mmh, ils veulent du concret, en fait.
Voilà.
Moi, ça va. Moi, c'est plutôt mes parents qui m'ont poussée à aller au bout de ce projet, en fait. Où moi, j'étais plus dans... Bah, comme disait Madeleine, en fait, de me dire, putain, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir de ces 5 années d'études, là, avec ce bout de papier quel sera mon statut et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et au final, eux, non, ils étaient... Enfin, mon père et ma mère étaient vraiment hyper ouverts à ce niveau-là. Et il n'y a vraiment jamais eu de soucis. Et puis ce que je fais aussi beaucoup, c'est que... Enfin, depuis mes 4 années, là, à l'ENSA, j'inclus beaucoup mes parents et mes frères dans mon travail, en fait. Et donc, mes parents sont énormément à l'école, même pour venir participer à mes performances et à mes travaux. Et comme ça, en fait, je trouve que ça permet d'ouvrir aussi à la famille, à la compréhension des choses... Et pour moi, c'est important de faire ce lien entre ce que je fais tous les jours et eux, en fait. Enfin, même pendant les repas de famille, du coup, les conversations sont un peu plus compréhensibles. Enfin, c'était important de faire ce lien.
C'est intéressant, c'est une bonne manière d'exorciser un peu ce fossé qu'il peut y avoir des fois entre ce qu'imaginent nos familles. Et est-ce qu'on ne vous pousse pas quand même un peu dans vos divers choix d'aller vers quelque chose de quand même plus professionnel dans le milieu de l'art, c'est-à-dire plus de design, plus de... Si vous aviez une envie qui restera assez abstraite jusqu'au bout des 5 ans d'études, est-ce qu'on ne va pas quand même vous pousser à penser plus professionnel en vous en avoir une place dans le milieu de l'art en tant qu'artiste qui vend des œuvres très chères et qui en vit, c'est dur. Mmh. Et du coup, est-ce que vous trouvez qu'on vous laisse tranquille là-dessus ? Parce que par exemple, dans les facs de lettres ou de sociaux, on pousse les élèves en sociaux à aller vers l'enseignement. On leur dit, voilà, donc on fait de la socio de la famille, on fait de la, et on va un peu délaisser des notions de sociologie un peu plus abstraites. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent aussi en école d'art ou où vous êtes un peu épargné de ça ?
Par rapport à la famille
Bah, la famille, et oui, aussi. Parce que... la famille, mais aussi d'une part vos profs et la façon dont on vous demande d'avoir un rapport à l'art en école d'art.
Je pense qu'on en est plutôt épargné, justement. Il y en a même qui regrettent qu'on n'ait pas cet apport-là à la professionnalisation. Mais bon, on fait des stages et on se rend compte aussi. Moi, je sais que j'ai fait un stage en deuxième année avec un artiste et on te dit pas en fait qu'il y a la maison des artistes, qu'eux ils vivent avec le RSA, qu'il y a plein de choses en fait. Bon, après, j'étais en deuxième année, mais il y a plein de choses qu'on nous dit pas, qu'on devrait savoir en fait en sortant de l'école.
Vous êtes plutôt en protégé du coup de tout
ouais.
ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Pas forcément.
C'est bien et pas bien à la fois. Voilà. Quoi.
Bah, c'est vraiment à nous d'aller chercher. Ouais. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça nous grandit, je trouve. Enfin,
fait mûrir, je pense.
Ouais, ça nous fait. Oui, ça. Merci. Ouais, voilà. Ça responsabilise en fait. Et si t'as envie d'un renseignement, bah c'est toi qui prends ton téléphone et t'es adulte, quoi.
On se construit. Ouais, on se construit seul avec nos. Enfin, pas seul.
Et entre nous.
Mais... Ok. Très bien. Nous allons passer à la question de Julien. Donc, est-ce que les expériences vécues au sein de l'Arc Territoire ont changé votre perception de l'avenir ou des chemins que vous souhaitiez prendre dans l'avenir ?
Non, mais on a les chemins qu'on a pu prendre, on a vu qu'il y avait aussi des chemins boueux en allant sur le terrain, plateau de mie de vache et à la Z. Il n'est pas forcément bétonné, du coup c'est pas mal. Mais après... Oui, du coup, non, mais c'est bien de prendre conscience que ça, il y a d'autres possibilités qui existent. Mais pour ma part, moi, je me projette pas. Je me projette pas pour dans ça. J'ai pas préparé d'itinéraire.
Moi, je sais que ça m'a rassurée en fait de rencontrer tous ces gens et de voir aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup voyagé. Et ou par exemple, par rapport à la question de tout à l'heure sur la famille, où moi on me dit plutôt voilà, va dans quelque chose de plus professionnel après. Et moi j'ai plus cette volonté de voyage pour aller voir justement un peu tous ces lieux comme ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait ça avant de se poser quelque part en fait, d'aller voir ailleurs. Et moi ça m'a pas mal ouverte sur ça et aussi sur le fait de me dire que de vivre en collectif en fait, c'est quelque chose qui me travaille là vraiment de plus en plus quoi.
Ouais, c'est vrai que cette notion de collectif elle a vraiment enrichi puis moi ma perception des choses et pour l'avenir aussi là la sortie de l'école je me vois pas me poser toute seule dans un appart et trouver un job et je me vois construire à plusieurs et toutes ces questions d'autogestion aussi c'est même voilà au niveau de l'art ça nourrit mais même pour notre avenir on est allé aussi au lycée expérimental de Saint-Nazaire. Là, tu te prends une claque parce que tu te dis... eux, ils ont 16 ans et dès 16 ans, en fait, ils apprennent à agir ensemble, à trouver des consensus. Et toi, en école d'art, t'as beau en avoir 20, 25, on t'apprend pas ça, quoi. Et du coup, heureusement qu'en fait, avec l'Arc Territoire, tout ce qu'on voit autour, ça enrichit et ça donne... plein de possibilités pour l'avenir, alors que tu trouves pas en fait les réponses dans la société ou dans les choses qu'on t'impose ou que on te propose en fait normalement. Quoi.
Ok. Et est-ce que de façon dans un avenir un peu plus proche et plus pratique, vous envisagez peut-être hors de l'Arc Territoire, mais de venir faire un travail artistique sur le plateau de Mille Vaches? C'est-à-dire dans un des lieux que vous avez rencontrés ou un des lieux que vous avez visité ou avec des personnes que vous avez rencontrées. Est-ce qu'il y a des choses qui vous êtes dit La question est un peu posée dans l'optique de dire sur le plateau de Mille Vaches, on a quelques artistes, on a des lieux d'art comme le centre d'art de l'île de Bassivière. Mais c'est vrai qu'on... Moi, je pense que ça mérite à être développé encore plus et en dehors de ces lieux qui sont les lieux des lieux phares. Ouais. Ça peut dire ça pour le gros jeu de mots pour ceux qui connaissent le plateau, des lieux phares et que ce soit un peu plus un rapport plus proche de l'habitant et plus proche. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore.
on sent là, on est venu au Carnaval Sauvage avec un groupe de l'école. Et ça, c'était en dehors de l'arc, en dehors de l'école. Donc on est venu en temps, oui, avec un petit groupe étudiant des Beaux-Arts. Et ça, c'était super. Parce que, ben, en plus, ça nous a permis de pratiquer totalement autrement, où tout ce qu'on a fait, en fait, ça a été brûlé. Ça, c'était dingue. Mais ouais, peut-être revenir l'année prochaine pour Carnaval Sauvage. Et aussi, on est venu à la fête de la montagne, certains, en septembre. Donc, ouais,
en fait, c'est déjà le cas.
C'est déjà, oui, c'est ça. Déjà le cas.
C'est génial.
Petit à petit, ouais. Dès qu'on peut, on vient. Quoi.
Nous, on va se retrouver pour la prochaine émission. Celle-ci était la première édition. Merci à vous tous. Et toutes et tous.
Merci.
Et on se dit à la prochaine avec sûrement une autre configuration. C'était la préface du livre Allô le terre-terre. Et on vous retrouve pour le chapitre 1 en avril prochain. Ciao.
Ciao.
Salut.
Allô. Ici la terre. Ici la terre.